Ouvrons la parole de notre Seigneur dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, les versets 13 à 21. L'évangile de Luc, chapitre 12, à partir du verset 13 jusqu'au verset 21. Du milieu de la foule, un homme dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage que notre Père nous a laissé. » Mais Jésus lui répondit, « Mon ami, qui m'a établi pour être votre juge ou votre arbitre en matière d'héritage ?» Puis il dit à tous, « Gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. » Il leur raconta alors cette parabole. Le domaine d'un riche propriétaire avait rapporté de façon exceptionnelle. L'homme se mit à réfléchir, « Que faire ?» se demanda-t-il. « Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. »« Ah !» se dit-il, « enfin, je sais ce que je vais faire. »« Je vais démolir mes greniers pour en construire de plus grands et j'y entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. » Après quoi, je pourrais me dire, « Mon ami, te voilà, pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. » Mais Dieu lui dit, « Pauvre, insensé que tu es, pauvre fou que tu es, cette nuit même tu vas mourir, et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter ? Voilà, voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même, au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu. » Jusqu'ici, notre lecture. Quelle attitude avoir face aux richesses de ce monde? Pour certains, les richesses sont tout. Sans les richesses, rien n'est possible. De ce fait, ils poursuivent les richesses en mettant en œuvre tout ce qui est en leur pouvoir. Ils cherchent à les acquérir de plus en plus et à posséder encore et encore. Cette démarche les conduit parfois à bafouer le respect de l'autre et par moments même à exploiter l'autre. À l'opposé, il y a d'autres pour qui les richesses sont la source de tous les problèmes, sont la source de tous les maux. Les problèmes de l'humanité, les conflits entre les peuples, entre les nations, et parfois même, bien sûr, entre les deux membres de la même famille, comme ce que nous allons voir. Et pour Jésus, quelle attitude préconise-t-il vis-à-vis des richesses et des biens matériels ? Pour Jésus, le plus important, ce n'est pas de posséder ou de ne pas posséder les richesses qui est important. Ce qui est important pour Jésus, c'est de savoir que la vie d'un homme, si riche soit-il, si pauvre soit-il aussi, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Et cette thèse, Jésus va l'expliquer d'abord à ce frère qui va venir lui poser la question au sujet de l'héritage, et par la suite, il va l'illustrer par la parabole qu'il donnera. Habituellement, lorsqu'un père arrive à un certain âge, un âge avancé, partage son héritage entre les enfants, un héritage auquel les enfants ont accès une fois que le père est décédé. Cela évite bien des déchirements au sujet des richesses laissées. C'est le cas, par exemple, de Jacob. Avant son décès, il a partagé son héritage pour ses enfants, pour ses 12 fils, avant donc juste son décès, c'est Genèse 49. C'est le cas aussi de David qui a donné des instructions au sujet de son héritage à son fils Salomon. Mais dans notre histoire, les deux frères avaient l'héritage en commun et la séparation des biens respectifs n'a pas encore eu lieu. Pourquoi ? Deux possibilités à cela. La première possibilité, c'est de dire que le père n'a pas voulu partager son héritage avant sa mort. Il ne voulait pas le faire pour sauvegarder l'unité familiale, car il a peur qu'en partageant son héritage de son vivant, ses deux fils risquent de céder à la tentation de prendre leur héritage et de causer de cette manière la division familiale. Ce qui serait pour ce père qui a tout construit, qui a fait tout pour construire sa famille, ce qui serait pour lui un désastre, ce qui serait vraiment un scandale insupportable à son âge. Donc le souci de sauvegarder la famille, de l'unité, de l'harmonie de la famille, pourrait donc correspond à cette célébration du psalmiste qu'on connaît si souvent et qu'on cite si souvent dans le psaume 133, qu'il est beau pour des frères de demeurer ensemble. Rappelons-nous qu'Abraham, lorsqu'il a séparé son héritage, lorsqu'il avait donné a fait des donations à l'un de au fils qu'il a eu avec ses femmes de deuxième rang, en particulier une certaine Ketura, donc c'est dans Genèse 25, il a fait ce partage pour séparer ses fils justement du fils de la promesse d'Isaac. Et cela, automatiquement, a causé une division. Mais bien sûr, c'est voulu par le Seigneur. Mais ça a causé une division. Et donc, probablement, le Père nous veut éviter toute division de son vivant entre ses fils. Et c'est pour cela qu'il, peut-être, ne l'aura pas partagé ses biens. Ou bien, une deuxième possibilité, c'est que le Père, peut-être, a déjà partagé les biens, mais les deux frères ont décidé de continuer ensemble après, de vivre ensemble et de partager leurs biens après le décès de leur père. C'est le cas, par exemple, de la parabole de Luc 15, où il nous est raconté que le père aimant avait déjà partagé de son vivant les biens pour ses deux fils, mais il continue toujours à vivre avec eux. Il continue toujours à vivre ensemble. Et donc, après le décès de leur père, probablement, les deux frères ont décidé de poursuivre, de vivre ensemble, de continuer à vivre ensemble, et donc de rester dans le foyer familial sans séparer leurs biens respectifs. En effet, bien qu'ils aient leur famille respective, beaucoup de frères du temps de Jésus continuent à vivre ensemble après le décès des parents. Ils forment de cette manière une famille bien élargie, bien forte, capable de relever bien des défis qu'elle ne pourrait pas relever si la famille était divisée. Ces familles élargies suscitent d'ailleurs l'admiration de plusieurs, dont le grand historien Joseph, Flavius Joseph du 1er siècle, qui louait l'unité des frères en comparant l'unité de la communauté des Esséniens, une communauté religieuse du 1er siècle, il l'a comparée à l'unité des deux frères qui vivent ensemble. Donc c'était quelque chose de très très apprécié que de voir deux frères, après le décès de leurs parents, continuer à vivre ensemble, bien sûr du temps de Jésus, hein. Donc les deux possibilités peuvent être envisagées. Il se peut que le père n'a pas eu le temps ou n'a pas voulu leur partager les biens pour sauvegarder l'harmonie familiale, ou bien tout simplement le père a partagé les biens, mais eux ont décidé de rester ensemble, du moins jusqu'au jour, à ce jour, où l'un d'entre eux est venu voir Jésus, probablement le cadet, demandant à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage que notre père nous a laissé. » Pourquoi cet homme vient voir Jésus? Et pourquoi lui faire cette demande au sujet de son frère? Est-ce que ce frère, probablement le cadet à mon sens, se sent lésé par son frère aîné qui a dû garder une double part à cause de son droit d'aînesse? Et dans ce cas, ce serait un appel de la part de ce frère à Jésus, un appel à la justice. Il adresse à Jésus un appel à la justice. Avant tout, Jésus est un rabbi, puisqu'il appelle maître et les maîtres. Avant tout, il est maître et par conséquent, on s'attendrait à ce qu'il se prononce sur la question de l'héritage, sur la base de la loi. Et il y a des textes de la loi qui traitent de cette question. Nombre 27, par exemple, ou bien Deutéronome 21, tous les rabbins de l'époque se prononçaient aussi sur cette question, sur la question d'héritage, comme il était d'habitude de le faire. Et justement, en regardant du côté de la loi, on se rend compte que le fils aîné reçoit le double de tous les autres frères. Mais en contrepartie, il doit prendre soin des sœurs célibataires qui ne sont pas mariées et ou bien des sœurs qui deviendraient veuves. Ça, c'est sa responsabilité. Est-ce que le frère aîné garde encore plus que ce que la loi l'autorisait à garder? Et dans ce cas-là, abuse de son autorité, de son droit d'aînesse et de son autorité, de sa position d'autorité vis-à-vis de son frère cadet. Ou bien, est-ce que ce frère cherche simplement à récupérer tout l'héritage de son père et déposséder son frère? Parce que nous pourrions nous poser la question de savoir pourquoi ce frère est venu interroger Jésus. Pourquoi il n'a pas été voir un autre rabbin? Probablement son frère est devenu l'un des disciples de Jésus et de ce fait, il veut profiter de la notoriété publique de Jésus pour régler ses comptes avec son frère aîné. Plus encore, peut-être le frère cadet s'attend simplement à ce que Jésus ordonne à son frère aîné qui serait devenu disciple de Jésus d'abandonner tout son héritage à son frère cadet. Avant tout, quelques passages auparavant, Jésus a dit que celui qui veut le suivre doit renoncer à tout et se charger de sa croix. C'est au chapitre 9. D'ailleurs, il faut remarquer que dans la demande de ce frère qui vient voir Jésus, il y a une petite différence. Il ne demande pas à Jésus d'intervenir et de régler leurs différends au sujet de l'héritage, mais il dicte à Jésus ce que Jésus devrait faire. Il lui dit « Dis à mon frère de faire ceci ou cela ». Il ne demande pas, Jésus intervient dans notre situation. Nous aussi, nous devons, me semble-t-il, faire attention à notre manière de faire appel à un arbitrage. Il nous faut nous préparer pour recevoir l'arbitrage, qu'il soit en notre faveur ou bien en notre défaveur. Dans des situations de crise, parfois familiales, conjugales, ou même parfois dans des relations avec des frères et sœurs, on fait souvent appel aux responsables d'église, aux pasteurs, aux conseils de l'église, et c'est une bonne chose, il faut le faire, nous avons besoin de nous aider mutuellement. Mais il faut nous préparer à entendre et à recevoir le conseil que nous pouvons recevoir d'eux, voir les directives qui peuvent nous venir d'eux. Nombreux sont les frères et sœurs, malheureusement, qui quittent leur église, tout simplement parce que le pasteur ou le conseil de l'église ou les anciens de l'église les ont conseillés dans une autre direction que ce qu'ils attendraient. Bien sûr, ici, je ne parle pas de notre église, je parle d'autres. Il me semble qu'il faut nous préparer, et il faut les préparer dans les moments faciles, pour que lorsque les moments difficiles arrivent, car ces moments-là, personne n'y échappe, nous puissions accueillir positivement le conseil des frères et sœurs, pour que nous puissions accueillir positivement le conseil des frères et sœurs qui exercent une autorité spirituelle dans l'Église. Le frère qui vient consulter Jésus n'obtient pas la réponse attendue de Jésus. Comme tout bon juif qu'il était, Jésus répond d'abord par une question au verset 14 et ensuite seulement qu'il situe le problème de ce frère dans sa véritable perspective. Mon ami, dit Jésus, qui m'a établi pour être votre juge ou votre arbitre en matière d'héritage? Cette réponse surprend non seulement le frère qui est venu consulter Jésus, mais aussi tous les auditeurs de Jésus autour de lui, et en particulier ceux qui étaient zélés pour l'exercice de la justice, ce qu'on appelait à l'époque les zélotes ou les zélés. Car pour ces zélés-là, ils s'attendaient à ce que Jésus prenne position. Soit, en cas d'injustice, rappeler le frère aîné à l'ordre, surtout s'il était son disciple, ou bien si c'est le frère cadet qui est tout simplement poussé par l'avarice de vouloir trop, de le recadrer. Donc, tout le monde s'attendait à ce que Jésus réagisse. Mais Jésus ne fait rien de la sorte. Au contraire, il emploie les deux termes pour désigner les autorités compétentes qui statuent habituellement sur ce genre de litige. D'abord, il dit le juge, celui qui prononce la loi, et puis arbitre, celui qui est censé appliquer la loi. Il dit « Personne ne m'a établi, ni votre juge, ni celui qui doit exercer, appliquer la loi. » En répondant de cette manière, dans un premier temps, Jésus refuse de jouer le rôle que veut lui faire jouer ce frère qui est venu le consulter. Plus encore, ce n'est pas à ce frère de dicter les priorités de Jésus. Contrairement à Moïse, Jésus n'est pas venu pour juger les affaires du peuple, mais pour être un réconciliateur, pour être un médiateur. Certes, Jésus sera le juste juge, celui qui jugera tout le monde lors de son retour. Mais à présent, il veut réconcilier avant tout les hommes entre eux et aussi, surtout, les hommes avec Dieu. Et pour être ce réconciliateur, pour être ce médiateur dans cette affaire qui oppose les deux frères, Jésus invite ce frère qui est venu se plaindre à chercher d'abord la réconciliation avec son frère, car celle-ci dépasse de loin, de très loin même, tout l'héritage qu'il peut récupérer. Et par là même, Jésus l'invite à aller beaucoup plus loin. En plus de la réconciliation, Jésus l'invite à reconsidérer la place qu'il accorde dans sa vie, dans son raisonnement, aux richesses, aux biens matériels, et à changer de perspective concernant les richesses de ce monde. Jésus se tourne vers la foule, après cette réponse spécifique à ce frère, adresse une parole à l'égard de tous, applique ce principe pour tous au verset 15, « Gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. » Jésus attire l'attention de ce frère qui vient de se plaindre, mais aussi de tous ses auditeurs sur deux réalités importantes. D'abord, la vie d'un homme n'est pas déterminée en fonction de ses richesses matérielles. Et le terme employé pour parler de la vie matérielle, pour parler de la vie dont il est question ici, c'est le terme Zoé, maintenant beaucoup de jeunes filles portent son nom, qui veut dire la vie. Donc c'est ce terme de la vie, et non pas un autre terme qui indique ou qui parle de la vie matérielle, de la vie animale, ou la vie simplement matérielle. La vie pour Jésus, la vraie. La vraie vie est définie selon Dieu. C'est une vie qui n'est pas déterminée ni orientée par les biens matériels. L'abondance de la vie ne vient pas de l'abondance des richesses matérielles, mais elle vient auprès de Dieu. Et Jésus dit par ailleurs dans l'évangile de Jean, « Je suis venu pour que les hommes, pour apporter la vie, pour donner la vie, et la vie en abondance. » C'est Jean 10:10. Ensuite, Jésus attire l'attention sur une autre chose, sur une autre réalité, sur le danger de chercher à posséder de plus en plus. Car une fois que la machine de la poursuite des richesses est lancée, il est très difficile de l'arrêter, voire même impossible, une fois que le point non-retour est franchi. Jésus rappelle aussi bien à ce frère qu'à tous ses auditeurs la loi de l'insatiabilité dans l'acquisition des richesses matérielles. Chacun doit faire attention pour ne pas se retrouver entraîné dans ce processus qui risque de l'éloigner de la vraie vie, celle qui reçoit sa direction, celle qui reçoit sa motivation de Dieu lui-même. Et pour nous, quel rôle jouent les richesses matérielles dans notre vie? Cette question est adressée à chacun d'entre nous, que nous ayons des richesses en abondance ou que nous nous trouvions dans le besoin. Le risque pour ceux qui ont des richesses en abondance, c'est peut-être de finir par orienter leur vie autour et en fonction de ces richesses. D'où l'importance, me semble-t-il, de bien recevoir et de bien écouter ces deux enseignements de Jésus au verset 15. Ne pas se tromper de la vraie vie. La vraie vie, le sens de la vraie vie nous vient du Seigneur, et faire attention au danger de l'avarice. Le risque pour ceux qui se trouveraient dans le besoin, c'est de croire qu'une fois la richesse matérielle est acquise, nous serions peut-être plus heureux, même nous pourrions servir le Seigneur davantage, et ainsi de suite. Et pour poursuivre cet objectif, on se retrouverait dans la même position ou dans le même état d'esprit que celui qui serait riche et qui continue toujours à chercher des richesses, sans bien sûr orienter toute sa vie autour de cela. Aux uns comme aux autres, l'avertissement de Jésus, me semble, est à prendre en considération si nous voulons que notre vie soit une vie en abondance, car celle-ci ne dépend pas de ce que nous possédons, ne dépend pas de ce que nous ne possédons pas. Elle dépend uniquement et seulement de Dieu. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvions, nous aurons à recevoir ces paroles de l'apôtre Paul. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris, m'accommoder à toutes les situations, toutes circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance, que je sois dans le besoin. C'est ce qu'il écrit dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4, verset 12. Nous avons aussi à entendre le conseil ou la recommandation de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Que votre conduite ne soit pas dictée, guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement, car Dieu lui-même a dit « Je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai pas ». Une autre application que nous pourrions tirer aussi de l'attitude de Jésus vis-à-vis de ce frère qui vient de le consulter, et c'est le fait de refuser de jouer le rôle qui n'est pas le nôtre. Nous devons veiller pour ne laisser personne faire jouer un rôle qui n'est pas le nôtre. Et souvent, dans des relations, surtout familiales, il nous arrive tous de commettre des erreurs dans les conseils ou dans les orientations que nous pourrions donner ou dire à ceux qui nous consultent. Et là, il me semble que nous avons besoin d'avoir beaucoup de vigilance et beaucoup de discernement pour chercher, comme Jésus dans ce cas, à favoriser davantage la réconciliation, à vous aider à voir que les relations peuvent être en plus de valeur que toute autre chose. Après le conseil de verset 15, Jésus va donner une parabole pour illustrer son enseignement et le faire comprendre davantage. Jésus met en scène un riche propriétaire qui a fait prospérer son entreprise agricole et qui a fait une récolte exceptionnelle au point que les greniers qu'il avait ne suffisent plus pour contenir toutes ces récoltes. Cet homme commence à réfléchir, commence à se poser des questions, à réfléchir en lui-même pour trouver une solution à cette situation. Et il décide enfin de démolir tous ses greniers pour en construire de plus grands. Après quoi, il pourra se dire, « Mon ami, te voilà pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de la vie. » Et jouis de la vie. Tel est donc le monologue de cet entrepreneur. Ce monologue révèle beaucoup sur les préoccupations, ses préoccupations et sur les intentions de ce personnage. Celui-ci, à vrai dire, n'est préoccupé de personne d'autre que de son « moi ». Il n'a cessé de répéter « moi, moi et encore moi ». Nous avons affaire là à un paroxysme de l'égoïsme. À aucun moment, cet homme n'a pensé partager avec ceux qui étaient dans le besoin, les pauvres qu'il rencontrait. Pire encore, il n'a même pas pensé à Dieu qui lui a donné chaque jour de sa vie, qui lui a accordé des forces et des ressources pour cultiver et travailler, et surtout, qui a fait croître toute cette semence, tout ce blé, le blé de ses champs. À aucun moment, il n'a pensé à son Dieu. Cet homme n'a pas besoin de toutes ses richesses pour vivre. Il avait déjà des greniers bien remplis, pleins. Au lieu de partager, il se lance dans de nouvelles constructions pour amasser de plus en plus et assurer, d'après lui, la tranquillité pour longtemps. L'avenir envisagé par cet homme ne fait aucune place ni pour Dieu ni pour les autres, en particulier les pauvres qui étaient très nombreux en ce temps-là. Le riche de la parabole ne connaît finalement personne d'autre que lui-même et il ne peut même pas partager sa joie, la joie de son travail avec d'autres personnes, parce que tout est tourné vers lui. Quelle tristesse, quelle pauvreté d'avoir tant de richesses et de ne pas en faire profiter d'autres, la famille, les amis, les voisins, ceux qui sont laissés de côté. Tous, ils étaient abandonnés. La seule personne qui intéresse l'homme dans notre parabole, c'est lui-même. Et voici ce qu'il se dit. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. Manger, boire, jouir de la vie, se réjouir, n'a rien de mal en soi pour nous encourager à profiter pleinement de tous les bonheurs que Dieu nous accorde sur cette terre, le Qohélète, l'Ecclésiaste, dit « Il n'y a rien de bon pour l'homme sous le soleil, sinon de manger, de boire et de se réjouir. » Mais dans le contexte de notre parabole, manger, boire et se réjouir rappelle le mode de vie des Grecs, des Égyptiens, des Assyriens de l'époque, pour qui la vie n'est autre que manger et boire. Encore, ça rappelle aussi cette maxime proverbiale qui rappelle la triste attitude des Judéens au temps du prophète Isaïe, lorsqu'ils s'adonnaient simplement au manger et au boire, à faire des fêtes, des banquets dans l'insouciance, sans se rappeler de Dieu. C'est dans Isaïe 22. En disant « mange, bois et réjouis et jouis de la vie », l'homme de notre parabole exprime son insouciance de Dieu, tout comme les Israélites au temps d'Isaïe encore, ou bien les Grecs, pour qui cela est un mode de vie. Mais jusqu'à quand il peut envisager une telle vie? Jusqu'à quand il peut envisager un tel mode de vie? Jusqu'à quand? Car il ne sait pas. Il ne sait pas que sa vie dépend de Dieu et non pas de ses richesses. Pour la première fois, notre personnage va faire son entrée dans cette parabole, et c'est au verset 20, et il ne va pas la faire il ne va pas passer par quatre chemins. Il va droit au but, insensé. Cette nuit même, Dieu te redemandera ta vie. Pour qualifier cet homme, Dieu l'utilise un terme très fort, insensé, ce qui veut dire celui qui exclut Dieu de toutes ses considérations. Insensé, celui qui est sans intelligence, sans sensibilité morale, sans sensibilité religieuse, sans véritable volonté de vivre et de connaître Dieu. Le riche de notre parabole ignore que Dieu n'a pas seulement un mot à dire dans sa vie, mais c'est lui qui a le dernier mot à dire dans sa vie. C'est Dieu qui a le dernier mot à dire dans la vie d'un homme. C'est lui qui donne la vie à qui il veut et comme il veut. C'est lui aussi qui la reprend quand il veut et comme il veut. Il faut être un insensé pour, en effet, oublier cette réalité-là. Dieu est bon, Dieu est généreux, et il donne à tous avec abondance ce que visiblement a oublié l'homme de notre parabole. Il a oublié que c'est Dieu qui lui a donné la vie, et par conséquent, non seulement ses richesses, mais lui-même appartient à Dieu. Lorsque les richesses, les dons de la vie, tout ce que Dieu nous donne, lorsqu'elles sont mal gérées, le Dieu des bienfaits se devient alors le Dieu des châtiments, le Dieu qui demande des comptes à chacun. Car l'être humain n'est pas le propriétaire de sa vie, mais il est uniquement le gérant. Cette prise de conscience doit conduire l'être humain à ne pas oublier sa finitude. Et une finitude qui peut intervenir à n'importe quel moment. Et aucune richesse ne peut permettre de rajouter une journée à notre vie. Aucune richesse matérielle ne peut repousser cette finitude. Voilà pourquoi nous devons garder à notre esprit notre finitude et tirer les bonnes conclusions pour gérer mieux notre vie et pour éviter ainsi de nous retrouver dans la même position que cet homme qualifié d'insensé. La conclusion qui vient au verset 21 de notre passage donne la fin inéluctable de celui qui se comporte dans sa vie comme le riche dans notre parabole. Un homme qui amasse ses richesses uniquement pour lui-même risque tout simplement de partir avant ses richesses, sans profiter de ses richesses. D'autre part, la deuxième partie de ce verset, verset 21, dans notre conclusion, ouvre une nouvelle façon de faire des richesses. Car les richesses ne sont pas condamnées comme telles par Jésus. Mais c'est l'attitude que nous pouvons avoir, riche ou pauvre d'ailleurs, à ces richesses qui peut être condamnée. Jésus invite à être riche pour Dieu. Que cela peut vouloir dire? Je peux suggérer deux manières de comprendre cela. D'abord, c'est gérer toutes les formes de richesse que le Seigneur place entre nos mains. Tous les dons, tous les talents, toutes les bonnes choses que Dieu nous donne peuvent constituer ces richesses, peuvent se constituer cette richesse-là à laquelle nous sommes appelés à bien gérer. Et donc, nous sommes invités à la gérer, à la développer, comme les bons intendants de la parabole des talents dans Matthieu 25, les deux premiers, en tous les cas serviteurs. Mais en disant cela, il y a aussi certains qui sont appelés à développer des richesses matérielles auprès de Dieu, pour accompagner en particulier l'œuvre de Dieu. Il y a des grands patrons chrétiens qui, dont l'entreprise soutient significativement l'œuvre de Dieu et qui sont fidèles parmi les fidèles du Seigneur. J'ai entendu un témoignage, et je ne résiste pas de vous le raconter rapidement, d'un frère qui est arrivé, d'un frère coréen qui est arrivé aux États-Unis, et dans un esprit missionnaire, et dans un premier temps, il a prié pour savoir la direction du Seigneur, comment il allait faire, qu'est-ce qu'il allait travailler. Il a fini par créer une entreprise qui a été bénie, bien développée, et actuellement, il soutient des missionnaires un peu partout dans le monde, il soutient des facultés de théologie, il soutient des églises, des œuvres humanitaires, et ainsi de suite. Il a développé ses richesses auprès de Dieu, sous la direction de Dieu. Une deuxième manière de comprendre être riche aussi auprès de Dieu, c'est de chercher les richesses du royaume de Dieu. Un peu plus loin, dans ce même chapitre, Jésus appellera à chercher un trésor inaltérable dans le ciel et aucun cambrioleur ne peut l'atteindre, ni aucune mythe ne peut entamer. Un trésor spirituel. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses seront données par-dessus. Aussi bien par son enseignement que par cette parabole, Jésus dit clairement la valeur d'un homme ne n'est pas fondée sur ses biens matériels, mais sa valeur vient de Dieu lui-même. C'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu que nous pouvons réellement être riches, riches dans notre relation avec lui, dans ce que nous pouvons suivre aussi, vivre, pardon, avec les frères et sœurs, et dans tout ce que nous pouvons aussi vivre avec tout ce qui nous entoure, toutes ces personnes que Dieu place sur notre chemin. C'est auprès de Dieu que nous pouvons aussi, que nous pouvons garder notre lucidité pour ne pas céder à la tentation de poursuivre les richesses matérielles sans tenir compte de Dieu, sans chercher à faire profiter ceux qui nous entourent, et en particulier ceux qui sont dans le besoin. Le Seigneur nous appelle à nous placer avant tout, à placer avant tout notre confiance en lui, et non pas dans nos richesses, car c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui pourvoit à nos besoins, à commencer par la vie au quotidien. Et lorsque le Seigneur nous permet de passer des moments difficiles, nous devons nous rappeler de ces paroles qui viennent juste après notre parabole de Jésus en disant « Ne vous inquiétez pas, en vous demandant qu'allons-nous manger, avec quoi allons-nous nous habiller ?» La vie vaut bien plus que la nourriture. Le corps vaut bien plus que le vêtement. Que nous soyons donc dans l'abondance, que nous soyons dans le besoin, sachant que notre vie ne dépend pas des biens matériels, mais elle dépend uniquement de Dieu et de Dieu seul. Que le Seigneur nous donne donc à chacun d'entre nous de demeurer et de grandir auprès de lui. Amen.